L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
Une invitée exceptionnelle ce matin sur Radio Rythme Bleu, vous recevez la ministre des Outre-mer.
Madame la ministre, bonjour.
Bonjour.
Merci de passer dans les studios de Radio Rythme Bleu à l'occasion de ce déplacement en Nouvelle-Calédonie, d'autant plus que vous êtes très peu exprimée publiquement lors de ce séjour. Vous avez dit au tout début que vous vouliez écouter avant de répondre. Alors les Calédoniens attendent des réponses dans le domaine institutionnel, dans le domaine économique notamment, à la presque fin de ce voyage. Est-ce que vous avez des réponses à leur donner? Est-ce que vous avez trouvé un chemin, comme on l'avait dit, et notamment dans le domaine politique et institutionnel?
Je suis convaincue qu'il y a un chemin. C'est la mission qui m'a été confiée à la fois par le président de la République et le Premier ministre. J'ai accepté cette grande tâche des Outre-mer, difficile aussi, je le sais, parce que je sais précisément qu'il y a des solutions à apporter. Et je sais que je peux être utile. Ma mission, elle est simple. Il s'agissait de, effectivement, retisser ce lien du dialogue, parce que on vit une période de méfiance, d'inquiétude et de colère. Moi, les Calédoniens me l'ont dit. Ils veulent vivre normalement. Et vivre normalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir des emplois, avoir des commerces ouverts, avoir des écoles qui se tiennent, de la sécurité, des perspectives d'avenir. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tenir un cap d'autorité et de fermeté. Ça, c'est important et c'est non négociable devant la sécurité à nos compatriotes. Et puis enfin, évidemment, ce que tout le monde attend, c'est-à-dire la solution sur le plan institutionnel, mais aussi sur le plan économique et social. Et moi, je veux lier les deux. Je ne veux pas qu'on parle d'institution sans parler du reste. Ça ne peut pas marcher l'un sans l'autre.
Mais vous avez des réponses sur tous ces thèmes. Alors, on va commencer par la politique institutionnelle, parce qu'on a l'impression d'être dans une impasse, de ne pas sortir de cette situation dans laquelle se trouve la Calédonie. Vous avez rencontré tous les groupes politiques en bilatéral. Vous avez aussi eu des réunions peut-être plus discrètes avec plusieurs délégations réunies ensemble. Qu'est-ce qui ressort de tous ces échanges? Est-ce que vous voyez une porte de sortie?
Vous avez raison, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de l'écoute. Je suis venue modestement sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie que je connais. Hein. Je suis venue en 2018, ça fait très longtemps que je travaillais aussi sur ces sujets. Je n'ai pas découvert le territoire en sortant de l'avion la semaine dernière. Donc je savais que ce serait difficile et la semaine n'a pas été simple. Mais j'ai entendu tout le monde. Toutes les forces politiques sont venues à la table. Alors principalement dans le cadre de bilatéral, donc on s'est vu. On a échangé les yeux dans les yeux. Moi, j'ai posé un cadre de méthode. J'ai dit que je n'avais pas de temps à perdre et que j'étais là pour écouter. Mais alors, dans ce cas-là, il faut un dialogue vrai et un dialogue franc. Qu'on se dise les choses. Est-ce que l'accord de Bougival tient encore? S'il ne tient pas, pourquoi? J'ai besoin d'explications, j'ai besoin de comprendre et de savoir ce qui bloque pour avancer. Et on a fait ce travail-là, y compris avec le FLNKS.
Alors justement, le FLNKS a confirmé qu'il rejette l'accord de Bougival. Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce que vous pensez pouvoir le ramener autour de la table avec les autres délégations?
Ce qui ressort des premiers échanges que nous avons eus, c'est que le FLNKS veut rester en dehors de l'accord de Bougival. Le mot même de Bougival crispe la délégation que j'ai reçue. Clairement. C'est la trajectoire de l'indépendance. Et donc, il n'a pas la place au compromis dans ces conditions. C'est d'autant plus difficile que, à ce stade, ceux que j'ai rencontrés n'ont pas de mandat de négociation. Donc, il y a une forme d'impasse au sein du FLNKS. Mais c'est une impasse que je ne peux pas accepter en ce qui me concerne. Parce que la Calédonie ne peut pas rester immobile. Il y a des enjeux majeurs. Ce qui va se passer en 2026, c'est un tournant pour les Calédoniens, notamment sur le plan économique et social. Donc, on ne peut pas rester les bras croisés. C'est le message que j'ai fait passer. Le statu quo n'est pas possible et les autres forces politiques le comprennent. 5 sur 6 aujourd'hui tiennent à Bougival.
Voilà, mais vous aviez dit que vous ne vouliez pas faire sans le FLNKS, votre prédécesseur l'avait dit également.
Pas tout à fait.
S'ils ne veulent pas faire, qu'est-ce qu'on fait?
Non, pas tout à fait. J'ai dit ça, mais je n'ai pas dit que ça. La phrase complète, et c'est important, je ne veux pas faire sans le FLNKS, pourvu que le FLNKS ne fasse pas sans les autres. C'est ça la méthode du consensus, et en particulier en Calédonie. Donc, j'entends moi que le FLNKS ne veulent pas de Bougival, mais je n'ai pas de contre-proposition aujourd'hui, je n'en ai pas. Sauf une trajectoire d'indépendance, mais qui donc ne s'inscrit pas dans un compromis. Qu'est-ce qui s'est passé à Bougival et pourquoi c'est important Bougival? Parce que vous avez des forces politiques qui ne se parlaient plus, qui ont décidé à un moment donné de se réunir, et de mettre les choses sur la table, et de faire un pas de côté. On n'avait pas vu ça depuis longtemps quand même. Et chacun a accepté des négociations, des concessions, alors qu'on pourrait se dire les ambitions, elles sont contradictoires. Vous avez des aspirations indépendantistes d'un côté, et puis des gens attachés à la République de l'autre. Mais oui, mais elles ont accepté de s'ouvrir au dialogue et d'accepter que celui qui était en face ne sorte pas humilié de la séquence. C'est comme ça qu'est né Bougival. Et c'est cet esprit que je veux préserver et continuer à porter. Donc je ne peux pas accepter qu'une partie me dise « il n'y a rien, j'ai pas de proposition, c'est l'indépendance ou rien ». ça n'est pas entendable vis-à-vis de la méthode qui est celle du consensus ici et vis-à-vis des pas qui ont été faits par les autres.
Et vis-à-vis également du choix des Calédoniens qui, par trois fois, ont dit qu'ils voulaient rester dans la France. Ça,
mais
ça rentre en ligne de compte dans
votre
réflexion.
L'histoire doit être prise en compte. Moi, je n'invente rien. Je constate effectivement qu'il s'est passé des choses et que les Calédoniens se sont prononcés dans un sens. Tout ça doit être pris en considération.
Alors, pour débloquer la situation, parce qu'il y a un risque en métropole, on a l'impression qu'en métropole, la classe politique aime bien avoir un consensus des Calédoniens avant de s'engager. On a vu que le report des élections provinciales, le résultat était un peu serré. Est-ce que vous pensez qu'on peut avancer, même si le FLNKS est en dehors et sur le bord de la route ?
Évidemment, sinon je ne serais pas là. Évidemment, moi je veux rassurer ceux qui nous écoutent. Il y a un chemin. La porte, elle est ouverte. C'est ce que j'ai dit au FLNKS. La porte est ouverte. Aujourd'hui, demain, après-demain, dans deux mois, la porte est ouverte. Ils peuvent prendre le temps de la réflexion, s'organiser. J'imagine qu'il y a des échanges en interne. À un moment donné, s'ils veulent revenir dans la discussion, la porte est ouverte. En attendant, il faut avancer. Encore une fois, parce qu'on ne peut pas se permettre de rester dans un statu quo. Je rappelle les défis majeurs que les Calédoniens devront affronter dans une situation économique dégradée. On ne peut pas perdre de temps. Et donc, le blocage de l'un ne doit pas bloquer l'ensemble.
Ça veut dire les prochaines étapes, c'est quoi ? Est-ce que vous envisagez d'inscrire la loi, le projet de loi constitutionnelle ? Il avait été prévu en janvier. Il a été retiré pour l'instant de l'ordre du jour du Parlement. Où certains disent qu'il faudrait que les Calédoniens soient consultés tout de suite pour inscrire dans le marbre, en quelque sorte, l'accord de Bougival. Quelle est la solution que vous préconisez aujourd'hui ?
Ces discussions, elles sont toujours en cours. D'ailleurs, je revois les forces politiques tout à l'heure, je reconvoque une plénière, je revois le FLNKS en bilatéral, justement pour dire voilà quels sont les scénarios possibles. Et maintenant, à vous de choisir ou de ne pas choisir. Enfin, voilà les scénarios possibles. Mais je vais vous dire, c'est pas de savoir s'il faut consulter d'abord ou si le calendrier doit glisser qui importe. Ça, ce sont les outils qu'il y aura après. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir où se situe le consensus. Et ce que j'entends de la part des autres forces politiques, c'est qu'ils tiennent à Bougival. C'est qu'ils veulent voir Bougival être mis en œuvre. Donc, c'est déjà un pas d'avoir réaffirmé le soutien à un accord qui existe et qui est là. Après, personne n'est fermé. J'ai entendu l'Unipalika dire... voudrait obtenir des éclaircissements sur tel ou tel sujet. Pas rouvrir Bougival, attention.
Il parle d'amélioration, ça vous paraît possible aujourd'hui ?
Mais oui, c'est possible.
Et les autres délégations
parce
sont
que,
ouvertes,
mais oui,
à ça ?
Et c'est là où c'est là où je veux rassurer, il y a un état d'esprit qui nous permet d'avancer. Donc quand l'Unipalika dit peut-être tel ou tel sujet, des éclaircissements, des précisions, là aussi la porte n'est pas fermée, sans rouvrir Bougival encore une fois, parce que ça c'est la base, c'est le fondement. En revanche... quand il y aura la mise en œuvre, au moment de, notamment du projet de loi organique, qui va quand même être massif, là, les discussions peuvent s'engager sur un certain nombre de points entre les partis. Bien sûr, c'est le propre du débat d'ailleurs.
Et vous, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, vous pensez qu'en métropole, il y aura un soutien à ce moment-là, si la loi constitutionnelle doit être examinée ? Est-ce que vous sentez l'ensemble des composantes politiques nationales prêtes à soutenir un accord, même si le FLNKS n'est pas dedans ?
Vous savez, on est dans une période... où il faut rassurer tout le monde. C'est vrai, parce qu'il y a un contexte politique à Paris difficile aussi. Vous savez ce qui s'y passe. Moi, mon rôle, c'est d'aller expliquer aussi là-bas ce qui se passe ici. C'est-à-dire que la porte est ouverte à tous. Le FLNKS ne souhaite pas rentrer dans Bougival, mais ne souhaite même pas expliquer pourquoi l'accord ne lui convient pas ou n'a pas les capacités encore tout à fait de l'expliquer, parce qu'il est coincé dans cette trajectoire qu'il porte depuis toujours, c'est vrai, mais il est coincé dans cette trajectoire. Enfin, je veux dire, si on fait le constat de ça, dans ce cas-là, on se projette. Et donc, les parlementaires sont en capacité de se dire, à l'instant T, le FLNKS ne revient pas à la table des discussions, mais le territoire auquel nous tenons, parce que nous tenons au territoire de la Nouvelle-Calédonie. Je veux dire, les parlementaires tiennent à ça. Et ils savent que c'est un territoire clé de la République. Et donc, ils sont prêts à entendre et à avancer sur le reste, si encore une fois, on est bien dans un cadre qui permette d'avancer. Je crois que Bougival est la base.
Alors, l'autre secteur qui préoccupe beaucoup les Calédoniens, sur lequel ils vous attendent, Madame la Ministre, c'est la situation économique. Elle est catastrophique. Vous avez pu en prendre la mesure en rencontrant les gens, en allant un petit peu sur le terrain ?
Ah oui, oui. Oui, bien sûr. Je ne me cache pas derrière mon petit doigt. C'est une situation économique dégradée. Les indicateurs sont défavorables. J'ai rencontré le monde économique, d'ailleurs, dès le premier jour. Et j'ai souhaité le faire dès le premier jour, justement pour mettre l'accent.
Qu'il restait un peu sur sa faim après vous avoir
rencontré. Oui, mais je comprends tout à fait. Moi, j'ai d'abord voulu les entendre. Je voulais savoir d'abord ce qui se passait, parce qu'on avait tout le monde économique, donc c'était très pluriel. Il y avait des partenaires sociaux et des syndicats autour de la table. ce qui a été dit a confirmé hein, effectivement ce que moi j'avais observé et pressenti. À partir de là, je leur explique qu'il y a deux choses. Il y a les urgences immédiates pour la Calédonie. Il y a des choses qui vont se dérouler dans le cadre du projet de loi de finances, donc assez vite. D'ailleurs, la semaine prochaine, je suis à Paris. C'est pour ça que je pars là. Mardi, je suis à Paris pour l'examen des crédits budgétaires outre-mer, notamment Nouvelle-Calédonie, mais surtout le plan de relance à venir. C'est un plan de relance massif. Hein. Le Premier ministre avait parlé de sursaut économique et social, de choc de confiance pour le territoire. C'est pas rien.
Il va se traduire donc comment, alors, quelles aides peuvent être déjà annoncées ou sont prévisibles?
C'est un plan qui continue de se construire, en fait. Hein. Parce que c'est pas simple. C'est un plan qu'on veut voir se réaliser sur plusieurs années. Donc il y a tous les sujets à l'intérieur. Il y a les projets structurants qu'on pourra porter en termes d'infrastructures. Il y a la question fiscale. Il y a tout le sujet du nickel, de la stratégie qui doit être mise en œuvre. Puis après, il y a les plus petits projets, site par site, territoire par territoire. Les provinces ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes problématiques. Donc c'est un travail long cours. Mais c'est important, c'est pas quelque chose d'évanescent. Moi, j'ai voulu, dans ma délégation, venir avec Madame Durieux, Claire Durieux, qui est à la tête justement de la mission interministérielle sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie en matière économique et sociale, sur ce fameux plan de relance. Précisément, j'ai voulu qu'elle vienne avec moi parce que c'est le sujet majeur. Encore une fois, moi, je travaille sur et le volet institutionnel et le volet économique et social, les deux jambes qui vont permettre au territoire de se redresser. Et avec Claire Durieux, on a rencontré tout le monde, on continue à faire le point, on a apporté un certain nombre de réponses sur des questions précises. Pour le reste, on continue à construire aussi avec l'exécutif, puisque ce sont des arbitrages financiers qui pèsent lourd. Mais l'État n'abandonnera pas la Nouvelle-Calédonie. L'État n'a jamais abandonné la Calédonie. En 2023, les transferts de l'État, c'est 18% du PIB. Et puis, ça a été un tiers du PIB. Donc, on sera au rendez-vous. Et je sais que les élus seront aussi au rendez-vous parce que le pendant, ce sont les réformes, effectivement, à faire. Mais j'ai confiance.
Alors, les élus qui commencent quand même à s'irriter un peu de la lenteur que prennent les choses, notamment pour la question du PGE, le prêt garanti par l'État, avec des remboursements qui leur semblent complètement insupportables. Et ils demandent de façon récurrente que ces prêts soient transformés tout ou partie en subvention. Vous avez pu leur apporter une réponse. Vous pensez que ça pourrait être faisable? Parce que la Calédonie a un taux d'endettement qui est insupportable aujourd'hui.
Oui, mais ce qui compte, ce n'est pas de transformer en subvention. Parce que vous transformez en subvention un an, deux ans, ensuite, le déficit, il est structurel.
Ah, la solution, elle est quoi, de désendettement?
C'est une trajectoire de désendettement. Et ça, l'État veut accompagner les élus, gouvernement, les provinces, dans cette trajectoire de désendettement, donc dans un certain nombre de réformes. Tout le monde en a conscience. On parle depuis très longtemps de réformes, elles n'ont pas été faites. C'est vrai qu'il faut du courage. Ça demande beaucoup de courage. C'est pas simple.
Et des majorités. Et vous savez ce que c'est, parce que ça existe aussi en métropole.
Et c'est pas simple non plus. Mais c'est possible. Et l'État sera en appui de ça. Mais ce que je peux vous dire, parce que moi, c'est ce que j'ai vu ces cinq derniers jours, c'est qu'il y a une prise de conscience de ça. Et donc les élus, ils sont prêts. Moi, je veux pas dire, je fais pas de chantage aux élus. Je veux
c'est
pas qu'ils chantage.
Demander. Ah non, absolument pas. Non, mais ça sert à rien. Contre réforme.
Pas du tout. C'est pas vous faites des réformes et on verra si on vous aide. D'abord, le temps de faire les réformes. Pardon, hein, mais tout ça se sera écroulé. Donc non, on n'a pas le temps. Non, bien sûr, il faut, on viendra en appui la Nouvelle-Calédonie, puis en parallèle, les élus engageront les réformes parce que la Calédonie, c'est pas un territoire qui veut faire la poche de l'État. Ce n'est pas un territoire qui vient, vous voyez, nous secouer la manche en nous disant « on veut de l'argent, on veut de l'argent ». Pas du tout. La Calédonie veut pouvoir vivre de manière pérenne sans venir toquer à la porte à Paris. Ça, je le sais, tout le monde me l'a dit et je l'ai vu. Et je le vois depuis des années. Donc je sais que le territoire calédonien veut s'en sortir. Je sais que les élus aussi. Voilà. Nous, on est là pour accompagner, pour donner des expertises si besoin. Sur le plan financier, je vous en ai parlé. En fait, c'est un tout. Et ce que je veux dire, c'est que l'État sera présent.
D'où l'importance de la relance de la filière nickel, hein, vous faisiez allusion. Beaucoup de choses ont été dites, ça fait partie aussi du plan prévu dans Bougival, mais on ne voit rien venir là non plus. Est-ce que c'est l'un des thèmes sur lesquels vous avez pu vous pencher et faire avancer les choses?
Oui, j'ai commencé à le faire, mais je vais vous dire, alors c'est dans Bougival, c'est très bien, mais il faut que ce soit ailleurs. C'est un sujet à part entière. Bon. Le nickel, c'est une stratégie majeure pour le territoire. On a beaucoup misé là-dessus. Sauf que, vous voyez, en deux ans, l'État a dû donner plus de 700 millions d'euros. Et probablement que l'année prochaine, il va falloir encore que l'État compense à hauteur de 400-450 millions d'euros. Ce sont des discussions qui sont en cours. Il y a un problème. On voit bien qu'il y a un problème. Il y a une stratégie qui est à redéfinir. Comment on rend viable aujourd'hui ces filières? Et ça, c'est pour ça que je vous dis que ça ne peut pas être que Bougival. Ça doit être un grand plan pour le nickel. Et les lignes, elles sont en train de bouger. J'ai rencontré Paul Néaoutine, Je crois que ça faisait longtemps que Paul Néaouti n'avait pas rencontré quelqu'un,
c'est
exécutif,
vrai. Il
n'avait
pas
ministre.
Reçu votre prédécesseur,
notamment. Ça fait un petit moment. Ça, c'est un signe qu'il y a quelque chose, effectivement, qui est en train de. Une petite mécanique qui est en train de s'enclencher. Et avec M. Néaoutine, sans trahir le secret de nos conversations, on a parlé évidemment de Nickel. Et on s'est dit que c'était le moment de se revoir et d'engager un travail collectif. La mission interministérielle, c'est le support. Donc maintenant, on va établir une méthode de travail pour se voir, pour que tous ceux qui seront concernés puissent se parler. Et pas question de mettre quelqu'un en dehors de la discussion. Alors ça, c'est le meilleur moyen, surtout ici, que ça dérape. Tout le monde a vocation à donner son mot. Et ensuite, avec l'État, on décidera de comment on peut rendre cette filière stratégique pour le territoire, pour la République, mais pour l'Europe aussi. On parle de sujets aussi européens. Donc il y a quelque chose qui se joue et j'ai bon espoir qu'on puisse arriver à définir cette grande stratégie.
Dans le domaine de la défiscalisation, vous confirmez la bonne nouvelle, entre guillemets,
oui.
Il n'y aura pas de coup de rabot comme ça avait été craint pendant un moment.
Je confirme, effectivement. Je vais vous dire ce qui s'est passé. D'abord, bon, vous savez les conditions dans lesquelles le projet de loi de finances a été ficelé dans l'urgence. C'était le gouvernement de M. Bayrou. Ce n'est pas d'ailleurs le gouvernement de M. Lecornu. Mais on a porté ce projet de loi de finances. Ce n'est pas solidaire de ça. Mais quand même, quand c'est arrivé sur la table, moi, je vais vous dire, tout de suite, les voiles se sont élevées dans tous les Outre-mer, partout. Sur le thème, vous ne pouvez pas nous faire ça. Les Outre-mer, c'est vrai, sont dans une situation de rattrapage pour la plupart des territoires. Pas simple. Et ces outils-là, ils servent. Ils servent le tissu local. Ils servent les choses concrètes, en fait. Hein. Les entreprises, celles qui créent de l'emploi, celles qui arrivent à faire vivre un peu l'économie à tel endroit, dans des secteurs un peu stratégiques, le tourisme, l'écologie. Bon, donc, quand d'une voix, en face de vous, les acteurs vous disent « pas comme ça », vous ne pouvez pas faire la sourde oreille. C'est ça aussi la méthode de ce gouvernement. Ce n'est pas des coups de rabot pour des coups de rabot parce qu'on a un gros déficit. C'est vrai que le déficit, il est important et que chacun doit faire des efforts. Mais on a entendu. Et donc, on a donc décidé avec le Premier ministre de dire, très bien, il n'y aura pas de coups de rabot parce qu'on ne veut pas vous fragiliser. En revanche, tout le monde s'engage à ce que l'année prochaine, on puisse discuter de ces dispositifs parce qu'on sait qu'il y a des écueils, ça ne marche pas très bien dans certains secteurs, parfois il y a des abus, etc. Mais ce que tout le monde reconnaît. Et les élus en face, et ça c'est assez remarquable aussi, tous ont dit, c'est vrai, vous avez raison. Et donc on s'engage à travailler avec vous l'année prochaine pour préparer en fait le prochain projet de loi de finances là-dessus. Comme quoi, voilà, avec une autre méthode, je crois qu'on peut arriver à faire des miracles.
Ça peut avancer. Alors, parmi les autres sujets de préoccupation, madame le ministre, il y a bien sûr l'ordre public, la sécurité.
Oui.
Après les violences insurrectionnelles qui laissent des traces encore très fortes ici, est-ce que vous pouvez nous donner la garantie et jusqu'à quand que les effectifs importants de forces de l'ordre qui sont actuellement présents en Nouvelle-Calédonie vont y demeurer?
Oui. C'est un sujet majeur. C'est une priorité pour le gouvernement, pour moi. Moi, je suis une femme de terrain, une femme de justice. Je suis avocate de métier. Moi, ce que je fais, c'est que je défends. Je défends des gens, des choses très concrètes, et je veux défendre les Calédoniens. On leur doit la sécurité. Ce qui s'est passé à l'occasion des émeutes a été un traumatisme général pour les Calédoniens, pour nous, qui l'avons vécu à distance. Les images ont été effroyables. Et il y aura les 20 escadrons de gendarmerie. Et c'est beaucoup, gendarmerie mobile. 20 sur 120 au plan national. Et il y aura les dispositifs de sécurité, les 2500 policiers et gendarmes, autant de temps qu'il le faudra. Je l'ai dit tout à l'heure en préambule, je suis là aussi, ma mission aussi, c'est de tenir ce cap. Moi, je suis attachée à l'autorité de l'État. On ne fait rien dans le bazar, on ne fait rien dans le désordre. Il y a des règles. Les règles, elles doivent être respectées. On peut manifester, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, on ne franchit pas la ligne rouge. 2 gendarmes ont été tués. Ça, c'est encore dans notre chair. Donc, la fermeté, c'est non négociable et ce sera tolérance zéro.
Alors, il y a 200 gendarmes, par exemple, qui sécurisent la RP1, la route provinciale au Mont-d'Or. Vous n'avez pas pu vous rendre dans cette commune, ni sur le verrou de Saint-Louis. Ça ne peut pas durer, 200 gendarmes en permanence.
Mais non.
Vous savez qu'il y a un projet de construction d'une voie de contournement qui est demandé par les élus, par la population. Est-ce que l'État, ça peut aider, peut apporter une réponse? Ce serait aussi des grands travaux de l'État qui viendraient apporter un peu de...
Bien sûr. Vous avez raison.
Alors, c'est envisagé ou est-ce que le dossier est au point mort, là aussi?
Non, là encore, le dossier est en discussion. C'est notamment l'objet de cette fameuse mission interministérielle, pour le coup, qui regarde très concrètement. Très concrètement. On sait bien la situation là-bas. C'est bien la difficulté. Et donc, on prend le pari aussi de la confiance avec tous les acteurs pour discuter de ce qui est envisageable. Alors, ça prend un peu de temps parce que c'est lourd, vous l'avez dit. C'est pas rien. Mais on sait que c'est une nécessité parce que, comme vous l'avez dit, de toute façon, il faudra trouver une solution. On peut pas rester en l'état.
Vous avez encore quelques rendez-vous, quelques déplacements sur le terrain. Qu'est-ce qui vous aura le plus marqué entre la province nord, l'IFU, vos déplacements dans les quartiers de Nouméa? Vous avez senti une différence par rapport à votre première venue en 2018?
Oui, absolument. L'état d'esprit n'est plus le même. Mais la confiance, elle s'est, avec le temps, effilochée, c'est vrai. C'est-à-dire que ces derniers mois, et surtout ces dernières années, un certain nombre d'événements, entre les référendums probablement et les émeutes, ont meurtri à la fois les esprits et puis évidemment l'économie locale. Et donc c'est tout ça qui fait qu'on arrive à cette situation de quasi-blocage, mais qui est en train de se décanter. Parce que la deuxième chose, ça je le savais déjà en arrivant, mais la deuxième chose qui me frappe, c'est cette âme des Calédoniens. Ce sont des gens très résilients et qui se projettent toujours quand même vers l'espoir. Parce que quand je les ai rencontrés partout pour le coup. Parce que ici à Nouméa, mais j'ai été dans les provinces, j'ai participé aux commémorations, donc j'ai eu le temps d'aller voir les gens qui venaient, le public assister. Et tout le monde me dit la même chose. On veut vivre en paix, Madame la Ministre. On veut vivre en paix. Vous savez, on ne déteste personne. Et ça fait longtemps qu'on est là. Parfois, des gens qui me disent, nous, on est là, et puis nos enfants aussi. Donc tout ce qu'on veut, c'est vivre en harmonie les uns avec les autres. On ne rejette personne et on accepte et les cultures des uns et les identités des autres. Et moi, ça me touche. Ça me touche profondément parce que j'ai aussi une identité multiple en quelque sorte. Mes parents sont immigrés marocains. Moi, je suis née en France. Mes parents sont immigrés marocains. Je viens d'un milieu très populaire. Mes parents ne savaient pas lire, pas écrire. On a été projetés comme ça, j'ai envie de dire, un peu dans un autre monde. Fallait vivre avec ceux qui étaient à côté de vous, qui n'étaient pas tout à fait pareils, mais on se retrouvait tous dans quelque chose de plus grand. Et ça, je l'ai retrouvé ici. Les Calédoniens se retrouvent tous dans quelque chose de plus grand, dans cette unité, dans cette communauté de destin, en fait, hein, dont on reparle souvent. Et ça, j'y crois profondément. Et j'ai envie de dire, ce sont les Calédoniens qui donnent le fil et le ton, d'abord. Et en fait, c'est ça mon moteur. Et c'est ce pourquoi je suis venue. Et je voulais que ce soit mon premier déplacement, ça j'ai pas hésité une seconde, et je le devais aux Calédoniens.
Vous avez été l'une des surprises du gouvernement Le Cornu 2. Vous nous disiez que c'était un peu votre choix, que l'outre-mer est quelque chose qui vous intéresse. Est-ce que c'est compliqué de succéder à quelqu'un comme Manuel Valls, qui était ministre d'État et dont on a vu l'implication, alors notamment concernant la Nouvelle-Calédonie et Mayotte sans doute. Est-ce que c'est compliqué dans ces cas-là de mettre ses pas dans les siens ou...
Moi j'ai beaucoup de respect pour Manuel Valls, avec qui nous avons des liens d'affection par ailleurs. Donc moi j'ai pas de difficulté dans le sens où je ne suis pas un choix de casting improvisé, vous voyez, où je ne suis pas arrivée par le fruit du hasard. Président de la République, Premier ministre, chercher quelqu'un, je pense, qui soit ancré dans les territoires, qui sache ce que c'est qu'un territoire, qui sache aussi tenir le cap dans la tempête. Moi, je suis députée depuis 9 ans, j'ai été vice-présidente de l'Assemblée nationale, connu des situations difficiles, j'ai présidé l'Assemblée, j'ai dû avoir à gérer une Assemblée nationale dans des conditions difficiles. Je suis aussi une femme de justice, attachée à l'autorité. Et quand je dis que je suis une femme de justice, c'est que la justice sociale m'intéresse. Et donc, je pense que je peux être utile à travers, vous voyez, toutes ces composantes. Et je connais bien le dossier calédonien. Et je vais vous dire, moi, je sens que les lignes, elles bougent. Voilà. Tout le monde est venu à la table des discussions. Les échanges ont été respectueux et cordiaux. Enfin, personne ne s'est énervé.
Et vous avez encore des échanges aujourd'hui.
Et j'ai encore des échanges aujourd'hui. Et je crois que cette méthode qui consiste à dire « Très bien, moi je vous écoute, je n'ai pas la science infuse. Dites-moi où ça bloque. Et on va cheminer ensemble. Mais dans un discours de vérité et de fermeté en même temps, parce que sur la méthode, je suis ferme. C'est-à-dire que c'est soit vous êtes sincère, et soit vous les construire, sinon ça va pas être possible. Ben, ça fonctionne plutôt. Après, je suis une femme de dossier, donc la technicité, tout ça, je connais, c'est pas un sujet. Et je pense que j'ai une force de travail. Je pense que c'est ça que cherchaient le Premier ministre et le Président de la République quand ils m'ont fait confiance. Et je peux dire, je le dis aux Calédoniens, ils me trouvent, je serai au rendez-vous de ça. Voilà. Je dis pas que je réglerai tout d'un coup de baguette magique, mais j'ai la détermination pour ça et j'ai la ténacité pour ça. Et ceux qui me connaissent savent.
Madame la Ministre, merci
d'avoir accepté
notre invitation et bonne fin de séjour en Nouvelle-Calédonie.
Merci infiniment.